Voici encore une incise des préfaces qui donne lieu à beaucoup de discussions. Kérubim quoque ac séraphim. Dans la confession de la véritable et éternelle divinité, nous adorons et la propriété dans les personnes et l'unité dans la substance et l'égalité dans la majesté. Et in majestate adoretur et qualitas. C'est elle que louent les anges et les archanges, les chérubins aussi, et les séraphins qui ne cessent de proclamer et de chanter chaque jour, d'une seule voix, « Ac séraphim qu'une incessante clamare quotidie, una voce dicendes ». Avec la splendeur théologique d'un texte que la religion médiévale a mûri, la préface de la Sainte Trinité se présente à l'analyse enchâssée dans un schématique voisin par ses caractères du discours traditionnel Perquem Majestatem. Énumération limitative de quatre chœurs angéliques regroupés par deux selon l'ancien errement romain, ordonnancement de l'énumération à partir des anges et des archanges, avec conclusion immuable sur l'évocation des séraphins que la tradition scripturaire illustre dans leur mission de chanter à Dieu l'hymne du Sanctus. Toutes données caractéristiques qui peuvent faciliter une datation. Le révérend père J. rejoint ce point de vue. Il reste néanmoins possible, écrit cet auteur, que la conclusion moderne de la préface de la Trinité remonte à Saint Léon. La présente réflexion a requis pour support de son développement le texte de cette préface parce qu'elle a le mérite de livrer, reconstituer le binôme conclusif de la milice céleste, c'est-à-dire les chérubins et les séraphins. Et si le Sanctus qui suit est le chant séraphique par excellence, les attaches synagogales de cet hymne lui imposeront d'elle-même une place dans le Fils divin chrétien, comme cela s'est produit pour le Gloria in Excelsis. Observons par ailleurs que la datation indiquée par le révérend père J. avant le règne pontifical de Saint Léon correspond à celle de la plupart des auteurs, c'est-à-dire la première moitié du 5e siècle. Or, la première moitié de cette centurie a été sujette à des mouvements liturgiques certainement engendrés par des avancées théologiques, mais susceptibles aussi d'ébranler des institutions en place. Selon les hypothèses soutenues par les auteurs, c'est très exactement ce qui s'est passé au cours du 5e siècle. Le Sanctus a été introduit, d'une part, entre les préfations pour en devenir la conclusion triomphale, et d'autre part, les rites et les prières subséquents par lesquels s'accomplit le plan divin de salut. On retrouve ainsi le double constat dressé sur un terrain ferme et indiscutable par le bienheureux cardinal Schuster. Premièrement, si la préface actuelle désignait à l'origine le commencement de l'anaphore eucharistique et du canon, il n'en est plus ainsi maintenant. Même si la préface conserve davantage le caractère d'hymne d'action de grâce et de louange qu'avait cette prière dans l'Antiquité. Deuxièmement, dès le temps de Léon le Grand, la préface était déjà devenue une composition indépendante, fermée, entière, complète et sans véritable lien littéraire avec le canon qui la suit. Cette rupture de style trouve assurément sa source dans l'interpolation de l'hymne séraphique à cet endroit de la Prex Eucharistica, ce qui suppose un réaménagement du texte antérieur de la préfiation et la présence, après le Sanctus, d'une agrafe terminologique qui autorise le rattrapage de l'ancien texte primitif du canon. La thèse classique est donc la suivante. Selon le Liber Pontificalis, compilation du VIe siècle, Le Sanctus aurait été introduit dans la liturgie eucharistique par le pape Sixte Ier, pape de 115 à 125. Mais les notices de cet ouvrage sur les pontifes des premiers siècles, imprégnées de légendes, n'ont jamais eu la confiance des auteurs. Monseigneur Gambert émettait l'hypothèse que la notice du Liber se référerait plutôt à Sixte III, pape de 432 à 440. Ce qui serait plus plausible, puisque les recherches doctrinales font de la fin du IVe siècle et du début du siècle suivant la période où le Sanctus a été introduit dans les rites de la messe. De surcroît, le pape Sixte III est le prédécesseur de saint Léon le Grand sur le trône pontifical romain. Toutes ces données paraissent concorder pour asseoir une conclusion valable. C'est évidemment en Orient que l'hymne séraphique paraît en premier lieu dans la liturgie eucharistique pour couronner la Laus Divina après le texte de la Préfation. À Jérusalem, l'anaphore de saint Jacques présente un Sanctus chrétien dans sa formulation actuelle. Toutefois, à Antioche, le livre 8 des Constitutions apostoliques, chapitre 12, donne une version un peu différente. Renonçant en effet pour le Benedictus à l'antique référence d'Ézéchiel, le texte adopte une formule tirée de saint Paul, épître aux Romains, chapitre 1er. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, béni es-tu pour les siècles. Amen. L'Occident chrétien n'a pas tardé à suivre cette nouvelle liturgie que le pape de Rome concédait et qui était officielle en Orient. Le révérend Père Gilles pense. La prière eucharistique romaine, dit-il, n'a vraisemblablement pas comporté le Sanctus avant la fin du IVe siècle. Elle semble avoir emprunté celui-ci à l'Orient, peut-être à Jérusalem, vers le premier tiers du Ve siècle. Cette opinion recoupe le propos cité plus haut par le cardinal Schuster. Mais voici qu'un texte énigmatique de Tertullien, 255 à 240, déorationné chapitre 3, semble bien détruire ce bel échafaudage et la pensée des spécialistes. Rappelons que Tertullien était un auteur latin et que son œuvre immense apparu dans une période restée assez obscure, au IIIe siècle. Le texte litigieux reprend mot après mot des locutions de la préface romaine qui seront écrites en caractères gras pour être distinguées à l'intérieur du corps du discours. Première allusion au texte de la préface. Contenu dans Tertullien. Il est véritablement juste. Ici, c'est le texte de Tertullien seul, il n'y a plus de... Que Dieu soit béni par les hommes en tout lieu et en tout temps, pour le souvenir que l'on doit toujours garder de ses bienfaits. À celui que la cour angélique ne cesse jamais de proclamer saint, saint, saint. C'est pourquoi, ajoute Tertullien, nous, si nous méritons de nous associer aux anges, nous apprenons dès ici-bas cette divine parole envers Dieu et le devoir de la future gloire. Assurément, Tertullien vise expressément l'hymne séraphique dans un environnement formulé qui n'est autre que celui d'une préface romaine, et où s'insèrent même les conceptions divergentes de l'Orient et de l'Occident chrétien sur la qualité de l'Église militante de chanter le Sanctus associé à la Messe céleste. Cet obstacle théologique qui paraît en arrière-plan dès le IIIe siècle dans les préoccupations de l'Église trouvera précisément sa solution lors de l'interpolation de l'hymne séraphique.